Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Babel Pongo Massimango.
À la une, ces révélations de Global Witness, l'ONG met en lumière la contrebande autour du coltan de Rubaya en Nord Kivu. Elle en a suivi les traces au Rwanda jusqu'aux chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises technologiques et automobiles du monde. Ces traces, vous en avez peut-être aussi dans votre téléphone, votre laptop ou encore votre voiture. Les travaux de lutte contre les érosions et de construction des routes à l'université de Kinshasa évoluent bien. Le ministre des Infrastructures est allé s'en rendre compte hier. Ces travaux sont financés par le gouvernement central dans le cadre des travaux d'urgence. À l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants, aujourd'hui 12 juin, nous abordons les défis et les actions menées dans l'élimination du travail des enfants avec notre invité, Godé Joseph Kayembe, président du conseil d'administration de la LISADEL. Madame, Monsieur, bonjour. Commençons par ces révélations sur le pillage et finalement la fraude autour des minerais de l'est du pays. Des milliers de tonnes de coltan issues de la contrebande extraites du site minier de Rubaya en Nord Kivu alimenteraient des chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises technologiques et automobiles du monde. C'est ce qu'affirme l'ONG Global Witness dans un rapport publié mercredi. Après un an d'enquête, l'organisation indique avoir retracé les circuits de ces minerais provenant d'une zone sous occupation de la coalition rebelle AFC-M23 dans l'est de la RDC. Juste Mr. Bilanda nous en dit plus sur cette contrebande.
Une fois introduit clandestinement au Rwanda, la traçabilité des minerais des coltans issus des mines des Rubaya devient incertaine et les acheteurs finaux restent inconnus, dit Global Witness. Selon ces rapports, au moins 5 des 7 principaux exportateurs rwandais se seraient approvisionnés en coltan des conflits avant de les vendre à des fonderies, notamment en Chine et au Kazakhstan. Les minerais y est transformés par la suite en tantale, composant clé des appareils électroniques. Global Witness cite plusieurs multinationales, dont Sony, Microsoft, Amazon, LG, Nvidia, Ericsson, Toyota et Vodafone, susceptibles d'être indirectement liés à cette chaîne d'approvisionnement malgré les dispositifs des contrôles existants. L'ONG pointe également les systèmes de traçabilité ITSCI, accusés d'avoir permis l'intégration des coltans des contrebandes dans les circuits légaux en lui attribuant une origine rwandaise. Des experts de l'ONU avaient déjà estimé à plus de 120 tonnes par mois les volumes de coltan transférés illégalement vers le Rwanda en 2024. Sur un an, au moins 1400 tonnes auraient ainsi franchi la frontière. Dans le même temps, les exportations rwandaises ont été multipliées par 2,5 depuis 2021, précise Global Witness.
L'ambassadrice française pour les droits de l'homme est en séjour en RDC depuis quelques jours. Au sortir d'une audience avec le ministre des droits humains hier à Kinshasa, elle a affirmé la volonté de son pays d'accompagner le gouvernement souminois dans le plaidoyer pour la reconnaissance des génocides commis dans l'est de la République démocratique du Congo. La diplomate française a dit prendre au sérieux les éléments qui lui ont été présentés par le ministre Samuel Mbemba. Elle demande aux populations congolaises de compter sur le soutien de la France. Isabelle Rome, au micro de Blaise Ndongala.
J'ai voulu venir sur place pour rencontrer les différents acteurs, les officiels, les survivantes de violences sexuelles. Avec Monsieur le ministre des Droits humains, nous avons pu justement échanger de manière constructive sur ce sujet. Il m'a rappelé avec beaucoup de sincérité ce qui se passe à l'est du pays et toutes ces exactions dont peuvent être victimes ces femmes et ces atrocités. Et donc je pense que la France continue à soutenir la RDC pour lutter contre l'impunité. Ça, c'est un axe très important. Je pense que la dignité de l'être humain ne peut pas exister si l'impunité subsiste. Bien sûr aussi, tout le soutien que la France peut apporter pour les victimes. Et c'est dans ce sens-là, notamment, que notre ambassade travaille sur l'accès des victimes à la justice. Le ministre a aussi évoqué la question de la reconnaissance du génocide. Je peux assurer que j'ai pris avec sérieux tous les éléments qu'il m'a communiqués.
L'ambassadrice française pour les droits de l'homme, Isabelle Rome, notait que le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, lutte pour la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo en octobre dernier. Il a obtenu cette reconnaissance de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. À Mbujimayi, les avocats du barreau ont marché hier jeudi pour dénoncer les violences infligées à l'un de leurs confrères par un officier de la 21e région militaire. Une marche d'environ 10 km de l'auditorat supérieur militaire jusqu'au gouvernorat au terme de laquelle un mémorandum a été déposé. Explication avec Esther Dalafina.
À Mbujimayi, la tension reste vive entre le barreau et la 21e région militaire après l'agression d'un avocat le samedi dernier devant la poste dans la commune de La Mouya. Selon la plainte introduite par le bâtonnier, l'incident est survenu alors que l'avocat faisait nettoyer son véhicule. Des témoins rapportent qu'en manœuvrant, il aurait roulé par inadvertance sur une enveloppe usée de pneus appartenant à un colonel également présent sur les lieux. L'avocat serait aussitôt descendu pour présenter ses excuses et proposer de remplacer l'objet si celui-ci était endommagé. Mais la situation a rapidement dégénéré. Deux gardes du corps du colonel l'auraient immédiatement malmené avant que l'officier ne donne l'ordre de le passer à tabac. L'avocat aurait ensuite été brièvement enfermé dans le coffre d'un véhicule selon les éléments versés au dossier. La plainte déposée à la justice fait également état de propos à connotation tribale et des menaces de mort attribuées au colonel mis en cause. Malgré l'interpellation de ce dernier, les avocats du barreau de Mbujimayi exigent que la procédure suive son cours et que leur confrère soit pleinement rétabli dans ses droits. Ils appellent les autorités provinciales et militaires à garantir le respect des libertés fondamentales et la protection des auxiliaires de justice dans l'exercice de leurs fonctions. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a inspecté hier jeudi quelques chantiers de la capitale afin d'en évaluer l'avancement. John Banzalunda s'est rendu notamment sur le site de l'université de Kinshasa, Unikin, où se déroulent des travaux de lutte anti-érosive sur deux sites, ainsi que la construction de plus de 3 km de voirie. Que retire à ce sujet Blaise Ndongala?
Les travaux de l'université de Kinshasa sont financés par le gouvernement de la République dans le cadre des travaux d'urgence sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Il concerne la stabilisation des deux sites érosifs et la construction des 3150 mètres de voirie constituant la boucle du plateau des professeurs. Sur place, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a reçu les explications de la mission de contrôle. Celle-ci a indiqué à John Banzalunda que la lutte anti-érosive s'est faite au moyen des bassins de rétention, dont un premier est déjà réalisé, tandis qu'un deuxième le sera sous peu. S'agissant de la voirie, ses membres du gouvernement a constaté l'avancement des travaux de drainage avec un caniveau réalisé à 100%, ainsi que des murs de soutènement en maçonnerie en cours de construction pour assurer la stabilisation des talus. Les travaux des différentes couches de la route débuteront à partir du 15 juin courant. Pour les revêtements, des procédés ont été adoptés. 1200 mètres seront en chaussée souple, tandis que les 1950 mètres traversant la zone basse seront en chaussée rigide.
Faire de la sous-traitance un levier de transformation et de souveraineté de l'économie congolaise, propos du nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés hier jeudi à Kinshasa. C'est à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Miguel Kachal-Katembe. Ted Balichaï promet de conduire cette institution vers sa pleine maturité, celle de l'efficacité et des résultats tangibles. Cela tout en garantissant aux entreprises à capitaux congolais l'accès effectif aux opportunités que procure l'économie de la RDC. Ces propos sélectionnés par Jean-Désiré Kanyama.
En quelques années, l'ARSP s'est ainsi affirmée comme une institution incontournable de l'écosystème économique congolais. Cette montée en puissance, nous la devons au travail accompli avant nous. Il nous revient aujourd'hui de réunir ces deux héritages, le fond et la forme, pour conduire l'institution vers sa pleine maturité, celle de l'efficacité et de résultats tangibles. Sa raison d'être est de garantir aux entreprises à capitaux congolais l'accès effectif aux opportunités que procure notre économie. Notre action reposera donc sur des valeurs non négociables. L'intégrité, la transparence, l'équité et le professionnalisme. Veiller au respect du cadre légal et promouvoir le contenu local à nos partenaires privés internationaux et aux investisseurs. La régulation que nous portons n'est pas dirigée contre vous. Elle est la condition d'un partenariat durable et apaisé. Vous trouverez désormais l'ARSP une institution prévisible dont les règles sont connues à l'avance et appliquées également pour tous et de façon prévisible.
Ted Balichaï, nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales qualifie d'inconstitutionnel la proposition de loi relative au référendum adoptée mardi dernier à l'Assemblée nationale. Cela attend dans son objet que dans ses mécanismes, dans une déclaration faite devant la presse mercredi à Kinshasa et signée par plusieurs personnalités, le cadre de concertation dénonce qu'elle qualifie de voie parallèle permettant d'échapper à un régime constitutionnel en instituant une assemblée constituante chargée d'élaborer une nouvelle constitution. De ces faits, le cadre de concertation des forces politiques et sociales exige l'abandon de cette loi dans son intégralité, étant donné qu'une telle procédure n'est prévue par aucun article de la Constitution. Écoutez à ce sujet Michel Omuika, coordonnateur de ce cadre et président du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, OPNEC, dans des propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La loi adoptée attribue une compétence constituante à des institutions auxquelles la Constitution n'en reconnaît aucune. Une institution créée par la Constitution ne peut pas, par une simple loi, se transformer elle-même en pouvoir constituant. Une loi ordinaire ne peut créer une assemblée constituante. Une telle démarche constitue une fraude à la Constitution. Elle vise à contourner les limites imposées par les articles 218 à 220 en prétendant substituer un changement de constitution à une révision de la constitution. Les députés nationaux, les sénateurs, le gouverneur de province, les députés provinciaux et les conseillers communaux sont des pouvoirs constitués. Aucun d'entre eux n'est ni investi du pouvoir constituant originaire. Leur transformation en assemblée constituante ne repose sur aucune disposition constitutionnelle. Cette loi institue un mécanisme de changement constitutionnel que la Constitution du 18 février 2006 ne connaît pas.
En Ituri, des jeunes s'engagent en faveur de la masculinité positive dans la communauté. Ils l'ont fait au cours d'un atelier de sensibilisation organisé mercredi à Bounia par la section genre de la MONUSCO autour des principes et de l'importance de cette lutte dans la vie active. C'est un reportage de Dieudonné Bilo et Martial Kizabiamongo.
Au cours de cette sensibilisation, les participants, une cinquantaine, ont été outillés sur les concepts de masculinité positive. Selon les organisateurs, les jeunes doivent s'approprier ces nouveaux concepts et les mettre en pratique afin de contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre. Ange Kassongia, coordonnatrice provinciale de la cellule mixte de la masculinité positive à Ituri.
Que les jeunes s'approprient cette question de masculinité positive, étant donné que nous ne devrions pas seulement parler aux gens qui sont déjà adultes, mais nous avons pensé commencer par la base pour que la jeunesse comprenne l'importance de l'équité, l'importance de l'égalité et qu'ils grandissent et vivent avec ces valeurs de masculinité positive.
Satisfaits, les participants se disent déterminés à promouvoir ces concepts au sein de leur communauté respective. L'un d'eux, Jacques Morizani.
C'est vraiment quelque chose de plus important. Nous devons nous mettre au travail et surtout vulgariser au sein de notre société.
Rappelons que la journée de la masculinité positive est célébrée chaque année le 31 mars en République démocratique du Congo. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Coupe du Monde 2026, les autorités de Hong Kong annoncent la saisie de 230 000 articles présumés contrefaits d'une valeur estimée à 20 millions de dollars américains dans des maillots liés à ce tournoi de football. L'inspecteur principal au service des douanes de Hong Kong a déclaré que parmi les 30 000 maillots appréhendés, certains étaient si bien confectionnés qu'ils étaient difficiles à distinguer des maillots officiels des équipes pour le consommateur lambda. Un premier groupe de plus de 260 Nigériens rapatriés d'Afrique du Sud à la suite de l'escalade des attaques anti-immigrés a atterri à Lagos hier jeudi. Le Ghana, le Mozambique et le Malawi ont déjà rapatrié des centaines de leurs ressortissants ces dernières semaines. D'autres candidats au rapatriement attendent encore leur tour. Et puis, quatre candidats sont en lice pour succéder à Antonio Guterres à la tête des Nations Unies. Il s'agit de la Chilienne Michelle Bachelet, l'Argentin Rafael Grossi, la Costaricaine Rebecca Crispan et le Sénégalais Macky Sall. Ils ont chacun été soumis à un interrogatoire serré de la part des 193 États membres et des ONG pendant 3 heures mardi et mercredi. Antonio Guterres quittera ses fonctions le 31 décembre de cette année.
L'invité.
À l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants célébrée aujourd'hui 12 juin, la question de la protection des droits de l'enfant reste plus que jamais d'actualité. Malgré les efforts engagés, de nombreux enfants continuent d'être exposés à différentes formes d'exploitation à travers le monde. Pour mieux comprendre les défis à relever et les actions menées en faveur de l'élimination du travail des enfants, nous recevons comme invité Godé Joseph Kayembe. Il est président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL. Il répond aussi aux questions de Magloire Landou Omaimba.
Monsieur Godé Joseph Kayembe, bonjour. Quel est l'état actuel du travail des enfants en République démocratique du Congo selon les observations de la LISADEL?
D'abord, on doit définir une catégorie de travail. Il y a le travail qu'on appelle la pure forme d'exploitation des enfants, le travail qui ne répond pas à leur âge, notamment être recruté dans l'armée pour faire le travail qui ne répond pas à l'âge de l'enfant. Et au Congo, il y a la loi de protection de l'enfant qui interdit l'utilisation des enfants dans les forces armées. Et au moins du côté de l'État congolais, il y a une observation par rapport à cette disposition-là. Dans l'Est, où il y a les rebelles qui n'ont aucun engagement à venir avec la loi, ni avec la communauté internationale, où on engage les enfants dans l'armée. Et c'est le travail, c'est la pire forme de travail de l'enfant interdit par la communauté internationale. Il y a le travail que font les enfants pour souvenir aux besoins des parents. En principe, la place de l'enfant est à l'école. Mais compte tenu des difficultés que traversent les parents, la plupart d'enfants, de parents, au lieu d'envoyer les enfants à l'école, ils les envoient pour vendre, par exemple, des vignes de commerçants en bilan, en se promenant soit avec de l'eau sur la tête, ou soit en vendant des arrêts et autre chose, et qui ne permettent pas d'évoluer normalement. Parce que l'enfant, pour qu'il évolue, soit, soit à la maison, soit à l'école. Et c'est la situation que nous déplorons. Et soit il y a aussi l'exploitation des enfants, c'est interdit, l'exploitation sexuelle des enfants. Et ça, c'est courant. Aujourd'hui, les enfants sont exploités sexuellement, il n'y a aucune protection. Au Congo, actuellement, il y a beaucoup d'abus fait contre les enfants. Et c'est effectivement, c'est ce qui est interdit par la loi congolaise, y compris la loi portant protection de l'enfant. Donc la situation des travailleurs de l'enfant est explosive.
Et quelle action concrète la LISADEL mène-t-elle pour lutter contre le travail des enfants et protéger leurs droits?
La LISADEL, c'est une organisation des droits de l'homme spécialisée dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. La LISADEL, elle a fait le plaidoyer pour qu'il y ait la loi sur la protection de l'enfant. C'est son travail, faire le plaidoyer auprès de l'État et ceux qui sont censés pouvoir appliquer la loi. Donc nous faisons le plaidoyer au niveau des autorités de la police, au niveau des juridictions, pour que ceux qui abusent les enfants soient sanctionnés. Nous avons les cliniques juridiques, où il y a des avocats, où il y a des psychologues, où il y a des juristes, pour aider les enfants qui sont victimes de violences ou qui sont exploités. Parce que l'exploitation des enfants fait partie du travail des enfants. L'enfant, le matin, doit être à l'école, ne doit pas être sur la rue. Il appartient à la police de pouvoir les interpeller. Et si l'enfant est victime, ou les parents savent qu'il y a tel enfant qui est victime, ils peuvent s'adresser à nos télévisions. La télévision peut arriver à mettre le dossier aux avocats qui peuvent accompagner l'enfant et on arrive au résultat.
Et à l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants qui est célébrée le 12 juin, quel message adressez-vous aux décideurs et à la population congolaise?
Notre souci, c'est de voir tous les parents, tous citoyens congolais impliqués dans la protection des enfants. À travers le monde, la police est limitée, les services de sécurité sont limités, c'est toute la population qui est censée protéger les enfants. Il faut que toute la population congolaise, les parents, même le voisin qui trouve que l'enfant est victime de violences, qu'ils ne puissent pas passer parce qu'ils disent que ce ne sont pas nos enfants. Les enfants sont naïfs, ils sont exploités à cause de leur naïveté. Il appartient à chaque Congolais de se porter garant de la protection des enfants. On a des chefs quartiers qui doivent être informés. On a des chefs d'avenue qui doivent être informés de la situation de l'enfant qui est en détresse. Mais il faut que la population s'implique. Le message aussi s'adresser à la police qui doit jouer son rôle. La police congolaise ne joue pas son rôle correctement. La police est là que pour chercher des infractions qui ne peuvent pas booster le développement de ce pays ou l'avancement de notre pays. Il faut aussi que la police puisse jouer son rôle. Lorsqu'il trouve un enfant en détresse, il ne doit pas attendre qu'il soit saisi sur l'infraction. Il faut arrêter les concernés. Donc il faut que tous ces gens-là s'impliquent dans la protection de l'enfant. C'est notre souci.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Vous venez de suivre Godé-Joseph Kayembe, président du conseil d'administration de la LISADEL. Et c'est ce qui clôture aussi ce journal. Je suis Mr. Bilanda l'a supervisé. La mise en onde dessinée, Jean-Claude Zonsiala. Merci de nous avoir accordé votre attention et votre temps. Bon début de week-end.